6h-10h, c'est Positive Morning avec Matt.
Et comme on vous le disait un petit peu plus tôt, hein, nous sommes le 20 avril, journée mondiale du cannabis. Et à ce sujet, nous avons le privilège d'avoir avec nous en duplex le docteur Daniel Brobeck. Rebonjour docteur, est-ce que ça va toujours bien?
Merci, oui, ça va toujours bien.
Vous êtes donc médecin addictologue, vous travaillez en clinique à Paris. Et on voulait savoir, docteur Brobeck, eh bien, quel type de patient vous accompagnez au quotidien? Quel type d'addiction également? Et quelle substance?
Ça, c'est assez variable. Mmh. Et je dirais que ça évolue aussi avec le temps. Par exemple, actuellement, nous avons des gens qui viennent avec des addictions aux jeux, particulièrement... par exemple au PMU et au jeu de grattage. On commence à voir arriver des gens avec des dépendances à la sexualité. Mmh. Et on a bien sûr, puisque je suis dans la région parisienne, énormément de dépendances au crack, avec des répercussions majeures sur leur morale et sur leur quotidien.
Alors si on parle de cannabis, est-ce que vous avez des patients plutôt jeunes, plutôt en milieu de vie ou alors plutôt âgés? Comment ça se passe de ce côté-là?
Alors pour le problème du cannabis, on a plutôt des personnes qui viennent nous voir avec la problématique cannabis. C'est plutôt en deuxième partie de vie, donc des gens autour de 30 à 40 ans.
D'accord.
Les jeunes, bien sûr, consomment du cannabis tôt. C'est pas forcément là qu'ils viennent nous voir en premier pour nous parler de ces problématiques-là, même si elles peuvent déjà exister avant, mais elles sont pas forcément repérées par le patient comme une problématique grave qui impacte son quotidien.
Et en cette journée mondiale du cannabis, nous sommes donc avec le docteur Daniel Brobeck qui est avec nous en duplex. On va parler durant toute cette émission spéciale, eh bien justement, de dépénalisation du cannabis, hein, loi qui souhaite rentrer en vigueur prochainement.
Alors c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, docteur Brobeck, entre CBD, THC, quelle est la différence? Comment un petit peu y voir clair?
Alors, il faut dire que d'abord dans une plante, c'est le cas puisqu'on parle là du cannabis, il n'y a pas un seul produit, il y en a souvent des dizaines. Et dans le cas du cannabis, il y a environ 60, peut-être même un peu plus, qu'on appelle des cannabinoïdes. Donc ce sont des substances qui ressemblent, qui sont des cousines du fameux THC, le tétrahydrocannabinol, qui est la substance qui nous rend accro, et la substance aussi qui a un effet psychiatrique sur certains, avec des problématiques psychiatriques dont on reparlera. Mais il y a donc environ 65 cannabinoïdes dans la plante, comme il y a plusieurs nicotinoïdes dans le tabac, et comme il y a plusieurs morphinoïdes dans le pavot, avec lequel on peut fabriquer de l'opium. Parmi ces différents nicotinoïdes, il y en a un qui a été repéré, qu'on appelle le cannabidiol, à la différence du tétrahydrocannabinol. Donc celui qui nous rend accro, on va l'abréger, on va l'appeler THC, hein, c'est la dénomination fréquente. Alors que le cannabidiol serait, je dis bien serait, réputé être plutôt relaxant, tranquille, et donnant peu de, ne donnant pas de dépendance, plutôt un produit qui serait considéré comme homéopathique, doux, permettant de retrouver une certaine sérénité, de se reposer, etc. Donc c'est ça la substance, la différence avec le cannabidiol, c'est une substance parmi d'autres.
C'est justement ça la difficulté, c'est qu'il y en a tellement. La question qu'on se pose, c'est de savoir quelles sont celles qui sont permises ou celles qui sont permises en France, notamment, Daniel Brobeck.
Alors en France, ce qui est interdit, c'est le THC, mm-hmm. Donc le tétrahydrocannabinol. Le problème, et là j'en ai malheureusement, c'est une espèce d'arnaque, hein, le cannabidiol, parce que au fait, ce qui se passe, c'est que les gens achètent donc des plantes séchées, puisqu'on leur vend des plantes, soi-disant que ce ne serait que du CBD. Malheureusement, il y a toujours un petit peu de THC dedans, de l'ordre de 0,3, 0,4, 0,5%. Et j'ai eu plusieurs fois le cas, dont une fois assez dramatique, avec quelqu'un qui a eu un accident, qui était positif au THC, puisque vous savez que quand on fait un test, on découvre des toutes petites doses. Et en plus, la durée de vie du THC est longue, de l'ordre de 2 semaines dans le corps. Donc il a été considéré comme positif et il a été lourdement condamné, alors qu'il n'avait pas, selon lui, il n'avait consommé que du CBD. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tant qu'on nous vendra des plantes qui sont soi-disant propre qui ne contiendrait pas l'une pas l'autre, on aura toujours un mélange de produits et on va donc absorber des substances illégales avec des substances légales.
Nous sommes donc bien avec Daniel Brobeck qui est donc médecin addictologue qui est du côté de Paris et est avec nous en duplex ce matin pour parler de cette légalisation du cannabis. Et on voulait justement vous poser cette question, docteur Brobeck. Pensez-vous qu'il y ait une distinction entre la consommation dite médicale et celle dite de loisir, docteur Brobeck?
Moi, je ne suis pas du tout en faveur d'une utilisation ni récréative pour le THC, parce que j'en ai vu les effets. Alors bien sûr, il y a des tas de gens qui ont des usages récréatifs avec le THC, comme il y a des gens qui ont des usages récréatifs avec des amphétamines ou avec de l'alcool. C'est dangereux et ils prennent des risques à chaque fois. Ensuite, l'usage médical du CBD, il reste à découvrir et à prouver. Pour le moment, il n'y a pas d'éléments de preuve médicale, c'est-à-dire des études en double aveugle qui ont prouvé que ce CBD serait mieux, plus efficace, moins toxique, avec moins d'effets secondaires que d'autres médicaments que nous avons déjà dans notre pharmacopée pour traiter les troubles anxieux, pour traiter les troubles de l'humeur. C'est pas prouvé. Alors, malheureusement, aujourd'hui, le cannabis, il bénéficie d'une espèce d'image, d'une aura, on va dire, un petit peu écologique, pour dire que c'est une plante qui serait bonne, etc. Je vous rappelle quand même que le nicotine est extrait d'une plante qui a été aussi, elle, considérée il y a environ 500 ans comme un médicament miracle, puisque notre ambassadeur au Portugal, qui s'appelait Jean Nico, l'a ramené pour soigner les migraines de la reine. Ça n'a pas beaucoup marché, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a des millions de dépendants à la nicotine en France. Et en même temps, la morphine n'est rien d'autre qu'une substance qui est extraite directement des boulettes d'opium, qui est la sève d'un très joli coquelicot qui pousse sur les pentes de l'Himalaya.
On parle donc de cannabis en cette journée mondiale. Avec ce qui se passe actuellement, c'est peut-être volonté politique de dépénaliser le cannabis. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur la différence entre légalisation et dépénalisation du cannabis ?
Alors c'est de la sémantique, c'est de la sémantique, c'est-à-dire dépénaliser, c'est dire à un enfant, j'aime pas ce que tu fais, mais si tu le fais, je te punirai pas. Alors que légaliser, c'est dire c'est bien, tout le monde a le droit de faire, il n'y a aucun problème avec ce produit. Voilà, c'est juste une sémantique. Maintenant, il faut bien reconnaître une chose, c'est que aujourd'hui, si on est sur le chemin de la dépénalisation, et je pense qu'à un moment donné, on ira même vers la légalisation du cannabis dans nos sociétés européennes, dans nos sociétés européennes et en France en particulier, c'est pas parce que nous avons brusquement compris que ce produit était très sain, c'est simplement parce que nous avons compris que nous n'arrivons plus à le contrôler par l'interdiction. C'est-à-dire que le contrôle par l'interdiction a complètement échoué et donc en fait aujourd'hui les pouvoirs publics ils baissent les bras et disent puisqu'on n'arrive pas, puisqu'ils le veulent, ils n'ont qu'à le prendre, même si on sait au final que c'est pas un bon produit pour la personne en particulier et pour la société dans son ensemble.
Et en parlant justement de nos voisins européens, comment ça se passe un petit peu du côté de l'Espagne, un peu partout en Europe avec le cannabis ?
Eh bien en fait donc on voit que ce phénomène il est en tout cas occidental, avec une dépénalisation progressive et légalisation, par exemple en Espagne et dans d'autres endroits, ou en Suisse par exemple, où il n'y a plus aucune punition légale par rapport à la consommation de cannabis. Et en fait, on va voir en fait ce qui va se passer, et là où il y a le danger à mon sens, c'est que finalement les jeunes qui sont exposés à ce produit vont finir par se dire, puisque finalement c'est légal, ça ne doit pas être si mauvais que ça, parce que sinon, on aurait interdit. Et c'est là que le bât blesse, c'est qu'on va le faire pour de mauvaises raisons. Mais en même temps, il faut bien reconnaître, ça c'est une évidence, on n'arrête pas aujourd'hui, même pas 1% du cannabis qui rentre en France chaque jour.
Et on va parler ensemble, Daniel Brobeck, de la toxicité. Je rappelle que ça s'appelait quand même une drogue douce. Alors est-ce que c'est vraiment grave un petit joint ?
Voilà, alors elle est douce pour ceux qui veulent l'appeler ainsi. Je vais dire, voilà, il faut dire une chose, et on va parler maintenant d'une notion qui est peut-être un peu surprenante pour nos auditeurs, c'est l'addictivité d'une drogue. Mmh. L'addictivité, c'est-à-dire le taux, le pourcentage de gens qui consomment une substance et qui vont devenir accros. La nicotine est une drogue très dure, puisque vous avez très très peu de gens qui peuvent consommer du tabac de temps en temps, en fait, ou vous êtes complètement abstinent, hein, et les ex-fumeurs le savent très bien, ou vous êtes consommateur et vous avez besoin de vos 20 cigarettes par jour. Mmh. L'alcool, c'est l'inverse. Vous avez en fait énormément de gens qui peuvent consommer un ou deux verres, même parfois trois verres de vin un dimanche avec des amis, et qui par contre ne deviennent jamais accros à l'alcool. Et il y a une petite minorité de gens qui deviennent accros à l'alcool, et ben c'est la majorité des gens que je soigne dans cette clinique ici. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de gens dérapent, etc., par rapport à cet alcool qui pourtant ne rend accro que finalement on pense aujourd'hui que environ 8% des consommateurs d'alcool en France. Alors, le cannabis, c'est une drogue à addictivité intermédiaire. C'est difficile de le mesurer, mais aujourd'hui, on pense que seuls 20 à 25% des consommateurs de cannabis vont devenir accros. Et ça, c'est très important à dire, c'est-à-dire que tous les gens qui consomment du cannabis, surtout par voie fumée, ne deviennent pas accros. Et donc, c'est ceux qui vont en parler, qui vont dire aux autres « Mais non, j'ai fumé quelques joints, ça m'a pas vraiment fait du mal, etc. » Mais par contre, les 25% qui deviennent accros, je peux vous dire que ceux-là sont dans nos cliniques, leur vie est cassée, leurs relations sociétales sont fortement impactées, quand ce ne sont pas des pathologies psychiatriques qui apparaissent derrière. Malheureusement, donc c'est quand même une chance sur quatre. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, bah écoute, tu peux utiliser le cannabis, mais t'as un barillet avec quatre balles, il n'y a qu'une seule balle dans le barillet, bon t'as une chance sur quatre de te faire vraiment du mal, mais les autres chances, bon, tu vas peut-être bien t'en sortir. C'est très clairement quelque chose qui est dangereux, mais qui ne rend pas accro tout le monde.
Selon vous, les arguments en faveur de la dépénalisation ne tiendraient pas, docteur Brobeck?
Bien sûr, c'est sûr que si demain on vend du cannabis, on va dire, contrôlé par l'État, on va casser le trafic qui est aux mains de revendeurs, qui eux-mêmes d'ailleurs ne consomment pas forcément d'ailleurs de cannabis, et qui vivent de ça. Bien sûr, on va leur couper l'herbe sous les pieds, mais je m'inquiète pas pour eux, ces gens-là sauront se rattraper et trouver d'autres moyens de financer leurs activités. La problématique, la question c'est quel est le message qu'on envoie aux jeunes générations, parce qu'il y a essentiellement d'elles dont il est question, en leur disant voilà, l'État va vendre un produit, il va nous falloir combien d'années pour pouvoir comprendre la même chose que nous savons aujourd'hui sur le tabac, et duquel nous ne sommes pas sortis, parce que nous savons que c'est toxique, et pourtant vous voyez, on continue de vendre des milliards et des milliards de cigarettes en France, et on estime que le tabac en tue de façon prématurée 80 000 personnes par an en France.
Et quels sont les autres effets un petit peu du cannabis, Daniel Brobeck?
Le premier effet, c'est ce qu'on appelle l'effet relaxant, hein, l'effet récréatif, rigoler, rire, voilà, c'est l'effet sociétal, très bien. Et cet effet, en fait, que les jeunes vont rechercher dans un cadre, va dire, festif, etc., pas du tout dans une démarche de dépendance, hein, est associé à un autre phénomène qui y est directement lié, c'est le syndrome amotivationnel. Alors, c'est un mot un peu scientifique, qui veut dire motivation, et le A privatif, c'est-à-dire j'ai plus de motivation. Ça, c'est très très important de le dire, c'est que même si vous n'êtes pas dépendant au cannabis, pendant le temps où vous le fumez, votre motivation pour faire quelque chose, quelle qu'elle soit, hein, va baisser. Par exemple, vous avez envie de vous promener, bof. Vous avez envie de faire des révisions pour votre examen, bof. Vous avez envie de faire un tour, bof. On a en fait, ça diminue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais elle va diminuer cette envie de faire une motivation pour un objectif précis. Deuxièmement, le cannabis est un. Il se fixe en particulier sur ce qu'on appelle la RAM, ou c'est une façon de parler, ou la mémoire vive de notre cerveau. Il faut savoir qu'on a besoin d'une mémoire vive, comme les ordinateurs ont besoin de leur RAM, et cette mémoire vive nous permet de stocker des informations immédiates très importantes qui vont rester un certain nombre de jours avant d'être de nouveau enlevées pour en mettre de nouvelles et de nouvelles. Ce qui explique en fait qu'il y a un impact scolaire du cannabis qui est extrêmement important, même à petite dose, on parle de 1 ou 2 joints par semaine, il y a un impact scolaire. Parce qu'à la fois, on a un syndrome amotivationnel pour travailler, réviser, aller en cours, se préparer à un contrôle. Et deuxièmement, si vous arrivez à contrôler ça, eh bien vous allez avoir de grosses difficultés à mémoriser à court terme le devoir, les infos, le cours qu'il vous faut mémoriser pour pouvoir le redonner le lendemain lors du contrôle. Et du coup, les résultats scolaires vont baisser.
Est-ce que selon vous, ce cliché de la maladie psychologique qui est déclenchée par un joint est vrai ou non ?
Alors non, c'est vrai. Il y a un lien connu depuis très longtemps entre cannabis, donc le tétrahydrocannabinol, qui est donc la substance addictive contenue dans les feuilles de cannabis et dans tous les produits dérivés de cette plante, et des effets psychiatriques. Alors, évidemment, tout le monde ne devient pas fou en consommant un joint. Et certains vont consommer des joints et du cannabis pendant de très nombreuses années et n'auront pas de pathologie psychiatrique. Ce qu'on sait, c'est que la maladie schizophrénique est une maladie grave, durable, pour ne pas dire incurable, touche environ 0,4-0,6% des personnes dans le quotidien, dans une population générale en France. Et si vous cherchez parmi les consommateurs de cannabis, on n'est pas à 0,7%, on est à 8%. Donc on est 11 fois plus.
C'est absolument énorme et ça pose vraiment question, docteur Brobeck.
C'est très intéressant de voir qu'en fait, que parmi les consommateurs de cannabis, on a beaucoup plus de schizophrénie. C'est une seule pathologie psychiatrique. On pourrait parler des autres qui apparaissent. Alors, ça ne veut pas tout dire, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont schizophrènes, qui n'ont jamais, bien sûr, consommé de cannabis. Mais il semble qu'il y ait un lien là-derrière. Puis ensuite, il y a un autre phénomène qui est connu de tous les psychiatres. C'est que dans les hôpitaux psychiatriques, les malades consomment massivement du cannabis. C'est comme si on va chercher le cannabis pour soulager des symptômes psychiatriques. Et c'est là que quelque chose de terrifiant apparaît. C'est que le cannabis soigne dans l'immédiat ce qu'il contribue à induire sur le long terme. Je ne sais pas si nos auditeurs ont bien compris. C'est-à-dire que je vais prendre ce produit cannabis pour me soulager maintenant par rapport à des problématiques psychiques qui seront elles-mêmes induites par le produit que j'ai pris, mais dans quelques jours.
On peut dire donc que c'est un cercle vicieux, Daniel Brobeck.
C'est le principe d'un serpent qui se mord la queue et on en veut toujours plus et j'en ai toujours plus besoin. Et on arrive à des gens que je vois arriver avec 10, 12 joints par jour, qui ne dorment plus, qui sont paranoïaques au stade de dire je ne peux plus monter dans un bus parce que si je monte dans un bus, je suis convaincu que tout le monde parle de moi, qu'ils m'attendent au prochain arrêt de bus pour me tuer ou me faire du mal. Là, on voit apparaître ces phénomènes psychiatriques qui ne sont pas forcément des phénomènes de schizophrénie, mais simplement des phénomènes paranoïdes très impactants sur la vie quotidienne de ces gens. Et quand on leur enlève le cannabis, c'est très difficile parce que justement, ils s'en servaient pour se soigner immédiatement sur les symptômes que le produit déclenchait quelques jours après chez eux.
Pour parler en cette journée mondiale du cannabis, et bien justement de la dépénalisation du cannabis, on voulait savoir si le cannabis est vraiment la porte d'entrée vers d'autres drogues, docteur Brobeck.
Alors c'est vrai et c'est pas vrai. En fait, le cannabis, il a un syndrome, comme j'en l'ai déjà dit, amotivationnel, mais qu'il est aussi un très efficace baisseur de barrière mentale. Je m'explique. C'est-à-dire que nous avons tous, vous et moi, nous avons tous des barrières mentales. Par exemple, on ne rote pas à table quand on a fini de manger. Ou voilà, on ne dépasse pas en voiture en agglomération. On a comme ça des certains nombres de barrières mentales. Or, le cannabis est quelque chose qui justement, sous l'effet de cannabis, même de petites quantités de ce produit, de THC, nous fait modifier ces barrières mentales et elles tombent. Et là vous avez, et ça je le vois chez mes patients très souvent, des gens qui vont dire « Non, moi je veux absolument pas d'héroïne, je veux surtout pas de cocaïne, j'ai bien compris que c'était mauvais. » Mais dans une soirée où il y a des copains qui consomment d'autres substances et qui vous en proposent sous l'effet du cannabis, on dira « Bon allez, aujourd'hui c'est la fête, allez, bon, mais une fois seulement, je veux bien, allez, alors vraiment pour goûter, pour voir. » Et on va franchir une barrière mentale. Et on va ouvrir la porte. Moi, je le vois même dans l'alcool, avec mes patients abstinents qui ne veulent plus boire d'alcool, mais qui n'ont pas de dépendance au cannabis, qui reconsomment du cannabis et qui vont se faire tenter par l'alcool alors qu'ils avaient clairement décidé de ne plus faire et qui rechutent à cause de ça. Parce que le cannabis est un destructeur de barrières mentales qui nous sont pourtant nécessaires au quotidien.
Et franchement, quand on entend ça, docteur Brobeck, ça fait bien peur. En tout cas, merci pour toutes ces explications.
Un grand merci encore à vous, docteur Brobeck, d'avoir été avec nous durant toute cette émission pour nous partager votre point de vue. Auriez-vous un mot de la fin pour nos auditeurs qui seraient consommateurs ou non de cannabis.
Eh bien, écoutez, notre système de santé possède dans tous les hôpitaux une unité qu'on appelle un XAPA, c'est-à-dire un centre de soins et d'accompagnement aux pathologies addictives et de prévention aux pathologies aux addictions. C'est très bien, il faut y aller. Il y a là-bas des infirmiers, des médecins qui peuvent vous écouter, qui peuvent entendre votre problématique, peuvent vous proposer des solutions de repli, parfois des traitements médicamenteux, mais c'est pas la priorité. C'est très important d'aller voir des unités de XAPA. Il faudrait aussi que les infirmiers et infirmières scolaires puissent aussi régulièrement parler de ça à l'intérieur des collèges et des lycées, parce que c'est là que ça commence, c'est à cet âge-là que ça démarre, et une fois que ça a bien démarré, c'est souvent difficile, voire impossible de l'arrêter.
Un grand merci à vous, docteur Daniel Brobeck.
Au revoir.
Eh ben c'est fou, dis donc, tout ce qu'on a appris, Tom, hein, durant cette émission.
Ouais, c'est clair, et c'est des choses qu'on pourra réutiliser avec nos proches, etc. Peut-être les gens qui se posent des questions ou qui ont des arguments, eh ben vous aurez des contre-arguments pour leur en parler.
Et on espère que personne ne s'est senti jugé, hein, durant cette émission, puisque le but, c'était pas vraiment de prendre un parti pris, mais vraiment d'essayer de comprendre un peu avec des spécialistes ce qu'il y a derrière ces problématiques, où des fois on entend un petit peu des choses dans les médias, on comprend pas, on n'arrive pas à tout saisir, en fait.
Hein. Ouais, c'est clair.
Et... on vous souhaite encore une belle journée, puis on se retrouve surtout demain, j'ai envie de dire.
Exactement, comme tous les matins, et oui, on sera là avec vous à partir de 6h. On vous souhaite une bonne journée. Surtout, prenez soin de vous.
Ciao, bye bye.